Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre série d'émissions Nos aînés connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est d'ailleurs financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans Nos aînés connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne et en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et puis nous voulons également à travers ce projet favoriser l'inclusion sociale et également réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre et ce d'autant plus depuis la pandémie de Covid-19. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, aujourd'hui nous allons aborder ensemble le thème d'une fraude qui a malheureusement tendance à se répandre de plus en plus. Les arnaques au sentiment, comme on les appelle, ou plus généralement des messages que l'on vous envoie afin de toucher votre cœur avec des situations poignantes relatives à la maladie, à des difficultés financières très importantes de la part d'un proche ou encore un souci avec la justice ou encore un dégât survenu dans son habitation comme un incendie ou un dégât des eaux. En effet, voici donc une nouvelle arnaque qui devient de plus en plus monnaie courante ici au Canada, mais également un peu partout aux quatre coins de la planète. Le système des fraudeurs est toutefois bien rodé depuis de nombreuses années. Ces derniers vous envoient des emails ou plutôt des courriels pour parler du bon français, pour vous exposer un problème en se faisant passer pour une personne proche de vous et vous demander au passage de l'argent ou alors de cliquer sur un lien présent dans leur correspondance afin de vous faire rentrer dans leur piège. Des courriels qui ont d'ailleurs l'air totalement légitimes, avec de moins en moins de fautes d'orthographe ou de syntaxe. Et oui, il faut dire qu'avec l'aide des intelligences artificielles, les fraudeurs en tout genre arrivent de mieux en mieux à se faire passer pour les véritables expéditeurs de ces courriels et donc tend à faire de moins en moins de fautes, que ce soit d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison. Et donc ces courriels, on peut penser qu'ils proviennent tout à fait de la part d'un ami, d'un membre de votre famille ou encore d'une vague connaissance qui tout d'un coup vous sollicite pour recevoir de l'aide de votre part. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, à savoir que dans ces échanges, les personnes vous demandent de répondre uniquement par email et de jamais rentrer en contact avec elles, que ce soit par téléphone ou par un quelconque autre moyen. Au final, c'est simplement un fraudeur qui joue avec vous et vos sentiments, étant persuadé que toute bonne personne va forcément vouloir voler au secours d'une personne de son entourage qui se trouve actuellement en situation de faiblesse ou qui doit faire face à de gros soucis, quels qu'ils soient. Alors comme on vous le dit bien souvent dans les épisodes de Nos aînés connectés, les fraudeurs 2.0 sont toujours très bien organisés et vont donc attendre que quelqu'un franchisse le pas et clique sur le lien présent dans leur email ou alors que la personne va répondre tout simplement à leur courriel en demandant plus de détails. Bref, en quelque sorte, le piège peut donc se refermer sur vous. Alors si les fraudeurs ont réussi à vous soutirer de l'argent, la seule chose à faire dans ce cas est donc de vous retourner vers votre banque et expliquer l'arnaque à laquelle vous faites face et voir quelles sont les options qui s'offrent à vous afin d'éviter au maximum de vous faire encore plus voler et récupérer si possible votre argent. Toutefois, s'il semble facile de mettre le doigt sur ces fausses correspondances de détresse, sachez que de nombreuses personnes se font avoir chaque année et ces chiffres s'envolent encore plus lorsque l'on s'intéresse aux populations aînées. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, vous allez entendre le témoignage de Vicky, une résidente du centre accueil héritage ici dans notre ville de Toronto. Et d'ailleurs à souligner que cette dernière a eu le courage de nous raconter son histoire, car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas en parler par peur de représailles ou tout simplement parce qu'elles ressentent une certaine honte d'être tombées dans le panneau des fraudeurs. Donc encore un très gros merci à toi Vicky pour ton courage et pour ta bienveillance et surtout pour avoir bien voulu partager ton histoire avec nous ainsi qu'avec tous les auditeurs de Choc FM 105.1. Et vous allez voir, grâce à son esprit vif et aussi grâce aux bonnes pratiques souvent mises en lumière dans les résidences pour aînés, Vicky a donc pu éviter de justesse la catastrophe. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour Vicky, qui va donc tout de suite vous raconter son histoire dans les prochaines minutes. Et pour finir, après le témoignage de Vicky, vous aurez également les bons conseils de la rédaction de Choc FM 105.1 qui vous permettront d'avoir un récapitulatif de toutes ces arnaques liées aux sentiments auxquels vous pouvez vous retrouver confronté lorsqu'il s'agit d'arnaques concernant ces escroqueries, donc autour des sentiments, que ce soit d'un proche, d'un éventuel amoureux ou encore d'une amie lointaine que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors bon épisode à tous et j'espère que ce dernier va vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassuré face à ces situations parfois compliquées à gérer lorsque l'on n'est pas suffisamment armé et que surtout vous, les auditeurs de Choc FM 105.1, vous allez tous devenir de réels experts 2.0 sur la toile.
Nos Innés Connectés, témoignages.
Je suis en compagnie de Vicky, Vicky qui a une autre histoire à nous raconter, une histoire de fraude, comme on pourrait dire, au sentiment avec un proche. En effet, Vicky a reçu un email de la part d'une amie, un email qui a touché un petit peu la corde sensible puisque son amie dans cet email lui explique qu'elle est malade et qu'elle n'a pas envie que ça se sache, qu'elle a envie de rester discrète sur cette maladie et elle a demandé à Vicky d'acheter des bons qu'elle pouvait ensuite échanger contre de l'argent. Mais Vicky va nous raconter son histoire encore un peu mieux. Alors Vicky, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
J'ai reçu un email de mon amie qui habite à Chicoutimi, puis en français, et puis donc ça m'avait pas mis la puce à l'oreille, c'était en français, et elle me disait je suis malade et faut que tu restes discrète, je veux que personne le sache, mais je vais être plusieurs fois à l'hôpital, mais j'ai besoin d'un peu d'argent pour payer les médicaments. Alors si tu pouvais juste me prêter juste pour cette fois-ci $90. Alors j'ai pas dit oui, enfin c'est, et puis pour être discret, tu vas aller à, je crois que c'est Vidéotron, je sais pas, un endroit comme ça, et tu demandes trois bons de $30 chacun que je pourrais échanger une fois que je les recevrai, que tu m'enverras à cette adresse là. Alors j'ai dit bon oui, moi j'ai... alors je dois dire que sentimentalement je l'aime beaucoup et qu'elle puisse être malade m'a tout de suite émue, surtout qu'elle n'a pas tellement longtemps parce qu'elle était mariée et tout, et puis j'ai pensé qu'elle voulait cacher ça de son mari. Alors je me suis renseignée, il n'y a pas de magasin comme ça ici où on vend des bons. Alors je lui ai réécrit, mais en attendant, j'ai commencé à réfléchir, je lui ai dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit pourquoi je ne lui téléphone pas directement. Alors je l'ai appelé, j'ai dit tu m'as envoyé un email comme quoi tu étais malade. Elle me dit moi j'ai jamais été malade, je t'ai jamais demandé d'argent. Alors voilà, j'ai évité, finalement j'allais les envoyer et puis mais c'était bien fait parce que ça m'avait vraiment pincé le cœur de savoir qu'elle pouvait être malade et qu'elle voulait pas que son, probablement moi j'avais imaginé que c'était son mari qui ne voulait pas, mais qu'elle voulait pas que son mari le sache.
Et est-ce que l'adresse email qui avait été utilisée pour qu'elle t'écrive, c'était la bonne adresse email ou c'était, avec le recul, si tu regardes bien l'adresse, elle était infraudée?
Ben, on correspond surtout par téléphone. Je ne saurais pas dire parce qu'il y a déjà 2 ans. En fin de compte, maintenant, quand on correspond, c'est plutôt par Messenger. Donc, on ne correspond pas par email. Donc je ne connaissais pas vraiment son email. Mais ce qui m'a bloqué tout de suite, c'est que j'avais beaucoup de chagrin et qu'elle puisse être malade. Et tout de suite, c'est ça qui m'a bloqué la vue, quoi. Finalement, j'aurais tout de suite j'ai pensé autrement si j'avais pas eu les sentiments qui m'ont bloqué mon jugement.
Et aussi le fait que dans le coin, il n'y avait pas cette fameuse boutique pour acheter ses bons à échanger en argent, parce que sinon, tu aurais peut-être sauté dessus tout de suite.
Oui, j'allais sauter, mais il n'y en a pas du tout ici en Ontario. Puis elle, au Québec, ils m'ont donné une référence qui était au Québec. Je sais pas si c'est Vidéotron ou quelque chose comme ça. Et je ne connaissais pas. Et puis j'ai répondu, nous n'avons pas ça ici. Comment je peux faire? Mais après, j'ai réfléchi et puis tout de suite, ça quand j'ai téléphoné, ça m'a ouvert les yeux, quoi. Mais c'était vraiment sentimental, quoi. Ouais.
Et est-ce que depuis, cette même adresse, elle t'a recontacté ou pas du tout jamais? T'as jamais pu?
Elle m'a jamais recontacté. Je corresponds finalement par téléphone. Ou par Messenger avec elle. Alors donc non, c'est pas de. Ils ont raté leur coup, quoi.
Et justement, si tu devais donner quelques conseils aux gens pour qui ne se fassent pas arnaquer, ou en tout cas qui se rendent compte peut-être un peu plus tôt avant d'essayer de courir dans le premier magasin venu pour aider une amie entre guillemets en question, qu'est-ce que ce serait comme conseil, Vicky?
Le conseil, c'est que quand c'est quelque chose qui est sentimental, ça peut être votre fille, votre fils, et qu'on vous dit « Oh, il a eu un accident, il a eu ceci, ou elle a... » Et ils auront besoin d'argent, de réfléchir bien avant. Soit de les appeler de votre côté, c'était ça qu'il fallait faire, les appeler. Je l'ai fait finalement, mais ça m'a pris quand même deux temps. Et en plus de ça, si jamais j'avais trouvé ces bons, je les aurais déjà envoyés.
Et du coup, là, pour en venir justement sur cet envoi, est-ce qu'il fallait l'envoyer par la poste ou est-ce que c'était par email qu'il fallait renvoyer ces fameuses cartes?
Je crois qu'il fallait que je les envoie par la poste, mais il y a deux ans de ça, alors je ne me souviens plus exactement ça. Non.
Et est-ce que tu as déjà pensé à parler avec ton fournisseur d'accès Internet pour essayer de voir si tu étais la seule à recevoir ce genre d'email ou si c'était une fraude courante?
Non, je n'ai pas parlé, mais je sais que c'est quelque chose de courant parce que mon ex-mari, il avait reçu comme quoi que sa fille était coincée dans un hôtel, mais c'était en anglais. Et vraiment, elle n'était pas bien et tout, mais bon, il a su tout de suite. Mais c'est quelque chose d'après moi, c'est quelque chose d'assez courant, d'essayer d'avoir les gens en leur disant, par l'émotion, c'est votre fille ou c'est votre ami ou quelque chose comme ça. Ce qui m'a étonnée, c'est que ça devienne de Chicoutimi. Ça m'a vraiment étonnée que ça vienne en français. Et ça aussi, c'est ça qui m'a eu, parce que moi j'habite en Ontario, mais il avait pas l'air ce qui m'a semblé, c'est que la personne qui a écrit n'avait pas l'air de savoir que j'étais en Ontario et c'est ça qui m'a étonné le plus. Oui.
Donc en fait, peut-être qu'un conseil à donner, ce serait de se rendre compte, de lire un petit peu entre les lignes de l'email pour voir si c'est vraiment cette personne et voir justement s'il n'y a pas comme une certaine distance, comme si l'email ne pourrait pas être envoyé à Pierre-Paul-Jacques pour que ce soit la même chose au final.
Oui, mais je crois que le mieux, c'est d'appeler la personne. Je ne sais, je l'ai pas appelée, je pensais son mari, et elle voulait que ça soit très discret. Mais je dis, mais finalement, elle n'est pas à court d'argent, cette personne, pourquoi me demande de l'argent? Mais il faut bien examiner quand on reçoit un email, surtout qui demande de l'argent.
Merci beaucoup, Vicky.
Nos aînés connectés, questions-réponses.
Alors aujourd'hui, on est dans cette émission de Nos aînés connectés avec comme thème principal les fraudes liées aux sentiments et aux arnaques diverses. Alors avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Anaïs Delomel. Comment ça va, Anaïs?
Très bien, et toi, Nathalie?
Eh bien, ça va super parce qu'on va pouvoir donner à nos chers auditeurs de Choc FM 105.1 quelques conseils, quelques bonnes astuces, comme on aime bien le dire, pour justement éviter au maximum de tomber dans ces arnaques liées aux sentiments. Alors forcément, ma première question, elle est facile. Qu'est-ce que c'est qu'une arnaque aux sentiments, Anaïs?
Alors, c'est une très bonne question. Donc, une arnaque de sentiments divers, c'est un fraudeur qui vous appelle et qui se fait passer pour l'un de vos petits-enfants, par exemple, ou un autre membre de votre famille et qui affirme avoir besoin immédiatement parce qu'il est dans une situation difficile. Donc, il y a des mises en scène typiques. Donc, par exemple, le fraudeur fait croire à sa victime qu'il s'est fait arrêter par la police et qu'il a besoin d'argent pour payer sa caution, qu'il a eu un accident de voiture et qu'il a besoin d'argent pour payer les frais d'hôpital, ou encore qu'il a de la difficulté à revenir d'un pays étranger. Donc l'idée, c'est qu'il peut même donner un numéro de téléphone à composer pour vérifier ses dires, mais la personne qui vous répond n'est qu'un complice faisant semblant d'être un policier ou un avocat. Donc il faut faire très très attention.
Oui, puis c'est surtout aussi, on va souligner cette notion d'urgence, d'avoir un besoin très 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 rapide d'aide. Alors voilà, je suis avec la police, j'ai un accident, je suis à l'hôpital. C'est vrai, comme on vous le dit toujours, faites attention parce que les fraudeurs, ils sont toujours très organisés. C'est pas juste une personne qui a prévu son petit plan à la dernière minute. C'est souvent des choses qui sont mises en place bien longtemps en amont. Et comme Anaïs l'a souligné, ils peuvent même vous donner un numéro de téléphone pour vous faire croire que bah, si tu ne me crois pas, appelle tel numéro. Et la personne au bout du fil, elle va se faire passer pour un policier, un docteur. Et comme ça, bah, la personne qui se fait arnaquer, elle y croit encore plus parce qu'elle se dit « Ah bah oui, mais moi j'ai parlé au policier. Bon bah, à qui je fais le virement ?» Et du coup, on tombe dans le piège.
Exactement. En fait, ils vont créer chez vous un sentiment d'urgence. Et donc, du coup, vous allez en fait vous précipiter. Et c'est la plupart du temps, vous allez tomber dans le piège comme ça.
Dans le panneau, comme on dit aussi. Alors, Anaïs, comment on peut faire, même si la liste des conseils ne s'arrêterait jamais parce qu'il y a tellement, tellement de choses à mettre en place, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter justement ces fraudes ?
Alors, il est important de ne pas partager vos détails personnels, donc votre numéro d'assurance sociale, votre numéro de compte bancaire, votre NIP, vos mots de passe, que ce soit sur n'importe quelle plateforme. Vous devez créer des mots de passe forts, donc avec des chiffres, avec des lettres, avec des symboles, etc. Donc assez longs, qui sont difficiles à deviner. Ne jamais utiliser les mêmes mots de passe donc pour plusieurs comptes, donc essayer de diversifier, même si c'est juste pour mettre un point d'exclamation à la fin ou un signe de dollar, peu importe, mais au moins qu'il y ait une différence pour éviter que quand un hacker va vous hacker un endroit, il va vous hacker partout en fait. Et vous assurer que les logiciels antivirus et anti-espions sont à jour sur vos électroniques afin d'empêcher les fraudeurs d'obtenir l'accès à vos données à distance.
Ouais, ça c'est vrai que c'est aussi important parce qu'on des fois on a tendance à se dire « Oh mais moi je fais attention, je vais pas sur des sites bizarres ». Ouais, mais des fois même en n'allant pas sur des sites forcément dits bizarres, entre guillemets, on peut se retrouver avec un email où on clique sur un lien et on trouve un cheval de Troie, ce genre de virus qui se met dans votre ordinateur et qui, on ne sait pas, peut-être va se mettre à s'utiliser pour récupérer vos données personnelles. Donc, on fait toujours très, très, très attention. Et je souligne encore ce qu'Anaïs, elle a dit, on n'utilise jamais les mêmes mots de passe sur les mêmes plateformes. Alors, il y a un petit truc tout bête à penser. Achetez-vous un petit calepin et notez vos mots de passe. Parce que si vous notez vos mots de passe sur quelque chose d'électronique, eh ben, le hacker, peut-être qu'à un moment donné, le fraudeur, pour parler même du bon français, peut très bien rentrer dans cette petite note et récupérer au passage tous vos mots de passe. Donc, n'hésitez pas, la vieille méthode, un papier, un stylo, et on note les mots de passe.
Exactement. Une autre astuce pour éviter les fraudes, c'est de ne pas répondre aux questions aléatoires qu'ils peuvent vous poser parce qu'il pourrait s'agir de tentatives pour deviner votre mot de passe. Donc notamment, par exemple, quelle a été votre première voiture, l'endroit, la rue où vous avez grandi, le nom de votre animal de compagnie préféré, votre année de naissance. Tous ces petits détails, c'est des éléments que vous pouvez mettre dans des mots de passe. Et justement, si vous répondez répondez à ces questions-là, et ben eux, ça va leur donner des outils pour ensuite trouver votre mot de passe. Vous devez aussi nommer une personne de confiance. Donc, les personnes de confiance ne sont pas autorisées à prendre des décisions financières, mais elles peuvent discuter avec le conseiller en placement pour faire part de ses préoccupations liées au bien-être financier et personnel du titulaire du compte. Voilà.
Ouais, et puis aussi, voilà, comme Anaïs l'a dit, surtout, moi, je suis là aussi pour re-répéter les choses. Les questions aléatoires, des fois, on se dit « Ah, c'est cool, cette personne, elle s'intéresse à moi, elle me demande c'est quoi ma couleur préférée, comme un genre de portrait chinois. » Souvent, on voit ça sur les réseaux sociaux passer « Quel est mon chiffre préféré, ma date de naissance ?» On a l'impression que c'est juste une trend parmi tant d'autres, qu'on est là juste pour parler à nos chers followers alors qu'on est personne et qu'on est suivi par nos mères, nos pères et trois cousins.
Exactement.
Donc, voilà, n'hésitez pas à éviter justement au maximum ces quiz un peu trop personnels. Alors que vous soyez transparent sur votre couleur préférée ou sur des trucs qui ne sont pas forcément relatifs à un éventuel mot de passe. Mais par exemple, des fois, c'est vrai que ce n'est pas forcément le mot de passe, ça va être des fois des questions de sécurité qui vont vous donner accès à votre compte. Par exemple, si vous avez oublié votre mot de passe, vous allez vous dire, OK, dans les questions de sécurité, c'est souvent des questions qui sont préposées. Vous n'allez pas pouvoir la taper vous-même, cette question. Et souvent, c'est les mêmes qui tombent, dont notamment le nom de la première voiture ou l'animal de compagnie. C'est vrai que c'est des questions qui passent souvent. Et d'ailleurs, c'est même des questions aléatoires dans les dossiers d'immigration. Donc du coup, voilà, on n'a pas envie de se faire hacker, frauder son compte d'immigration. Par exemple, si on prépare une résidence permanente, ce serait bête de se faire voler son identité alors qu'on est en plein processus. On va passer à la question suivante, Anaïs. Comment on fait, du coup, pour guider les appels des fraudeurs? Est-ce qu'il y a des petites astuces à mettre en place pour pouvoir justement se rendre compte que la personne qu'on a au téléphone, elle est en train de nous mener droit dans une arnaque?
Bah oui, il y a différentes astuces, encore une fois. Donc, la première, c'est n'offrez jamais de l'information à votre interlocuteur. Par exemple, s'il vous demande « M'as-tu reconnu ?», dites simplement « Non ». Et demandez-lui son identité pour vérifier que vous le connaissez et que ce n'est pas un fraudeur. Demandez des détails à votre interlocuteur. Donc si la personne vous explique une situation, demandez-lui des détails sur l'endroit exact, où elle se trouve. Demandez-lui de répéter l'histoire. Donc, parce que si quelqu'un va répéter l'histoire et qu'elle va être complètement différente que ce qu'elle a dit il y a 5 minutes, eh ben, vous allez comprendre en fait que justement c'est faux. Et un criminel se rappelle difficilement des détails qu'il a inventés sur le champ. Donc, faites répéter et vous verrez qu'il va y avoir des différences qui vont être assez...
Voire même des blancs.
Des blancs, voilà, des temps de réflexion qui sont longs pour des questions simples. Donc, par exemple, comment vous appelez? Temps de réflexion et ensuite une réponse. Ces choses-là, il faut les prendre en considération quand vous prenez un appel, etc. Et c'est comme ça que vous allez détecter les fraudeurs. Posez-lui quelques questions personnelles auxquelles seuls vos proches seront la réponse. En fait, par exemple, je ne sais pas, sur quelle rue est-ce que j'habite, sur des choses vraiment que uniquement...
Ou même des questions même plus personnelles. Moi, je sais qu'avec toutes ces intelligences artificielles, avec ma famille, on a mis des choses en place parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Et du coup, par exemple, des questions très très bêtes. Qu'est-ce qu'il y a comme cadre sur le meuble du salon? Seules les personnes qui sont allées dans mon salon savent. Et
oui.
J'ai ma mère au téléphone, elle est censée savoir, puisque en plus de ça, elle le voit tous les jours, elle fait la poussière, elle va le voir. Enfin, je veux dire, voilà.
Exactement.
Et des questions très très pratico-pratiques comme ça.
Est-ce que j'ai déjà eu un chat?
Voilà.
De quelle couleur il était il
Exactement,
était.
Voilà. De quelle couleur est le tapis de la salle de bain? Des trucs où, forcément, c'est des gens qui sont déjà venus chez toi. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé telle date? Ou comment elle s'appelle, Tata, machin? Voilà. Que des petites questions où on se dit, forcément, c'est quelqu'un qui me connaît réellement très, très bien, qui va avoir la réponse. Parce qu'un fraudeur peut toujours prétendre une histoire, même le meilleur fraudeur du monde, il va avoir des tendances un peu mythomanes, donc il va avoir le mensonge un peu facile, faut se dire la vérité, c'est ça. Et du coup, si on lui pose des questions où il n'y a qu'une seule bonne réponse de possible, bah là, on va vite se rendre compte que le piège, il se referme un peu sur la personne.
Exactement. Il faut faire un peu un entonnoir, en fait.
C'est ça, exactement.
Donc, après que vous ayez raccroché, vous devez vérifier l'histoire en appelant vos parents ou d'autres membres de votre famille. Par exemple, si le fraudeur vous a appelé et il a dit que c'était votre petit-fils, vous vous assurez que votre petit-fils vous a bien appelé, c'est-à-dire que vous appelez ensuite votre petit-fils, et si là vous avez votre petit-fils qui fait ah non, pas du tout, mamie, je ne comprends pas, et ben ça, vous savez que vous avez été face à un fraudeur. Ne faites jamais de virement d'argent télégraphique, peu importe les circonstances, donc c'est pratiquement impossible de recouvrer ou de trouver l'argent ainsi transféré. Une fois qu'il est parti, il est parti.
Et il est perdu surtout.
Et il est perdu, exactement. Ne fournissez jamais votre numéro de carte crédit par téléphone ou sur Internet, à moins d'être sûr du destinataire. Et même moi, personnellement, je ne le fais jamais. Ou sinon, si je le fais, c'est que je vais partager un numéro, par exemple le numéro de la carte crédit via une application, avec une autre application, je vais partager la date, etc. etc. Comme ça, en fait, il y a un moins grand risque de fraude et qu'on te prenne tes informations, surtout un numéro de carte, ça serait pénible de voir sur ton compte moins 10 000, ça serait vraiment pas cool.
C'est sûr que c'est pas cool, et puis en plus c'est du béaba, est-ce que dans la rue, admettons vous êtes à l'arrêt de bus, est-ce que quelqu'un qui vous donne votre numéro de carte de crédit, est-ce que vous lui donneriez? La réponse, elle est non. Donc pourquoi au téléphone? Parce qu'il y a cette histoire qui a l'air plutôt bidon, mais quand même, qui vous demande un numéro de carte. Là, d'un coup, vous vous posez la question. Posez-vous la même question de est-ce que si j'étais dans la rue face à un inconnu, parce qu'au final, là, je suis chez moi avec un inconnu au téléphone, qui me demande des choses peut-être en relation avec un membre de ma famille, quelqu'un qui a l'air d'être dans une situation compliquée, mais au final, cette personne à qui je parle, je la connais pas. Donc pourquoi, d'un coup, je lui donnerais des informations personnelles, des trucs qui lui donnent accès à mon compte en banque, à je sais pas quoi, des trucs très très personnels, alors que dans la rue, si la même personne elle me posait la question en face, je dirais bah non.
Exactement. Et écoutez aussi le ton de la personne qui vous le demande, parce que si pour le coup, parce que ça peut arriver que, par exemple, votre compagnie de téléphone vous appelle pour vraiment parce qu'il y a un problème avec votre carte, etc. C'est des choses qui peuvent arriver.
Ça peut arriver.
Généralement, la personne qui va être en face de vous va être très calme et va être au courant que, en fait, donner sa carte de crédit, son numéro de carte de crédit, c'est quelque chose d'assez important. Donc, normalement, elle ne devrait pas créer un sentiment d'urgence il faut que vous me le donniez maintenant, etc. Donc faites attention aussi à l'intonation de votre interlocuteur. Ça peut être vraiment un bon indice de si oui ou non, en fait, vous avez en face de vous un fraudeur.
Alors, ça m'amène à ma question suivante. Pourquoi, Anaïs, les aînés, en général, ils sont quand même plus vulnérables à ces types de fraudes?
La fraude est le principal crime commis contre les aînés canadiens. Ça, il faut le savoir. Les fraudes financières se passent souvent chez les aînés puisqu'ils ont tendance à passer plus de temps à la maison. Donc, c'est plus probable qu'ils répondent au téléphone ou à la porte quand un fraudeur se présente. Je sais aussi que les aînés, par exemple, ont tendance à avoir un téléphone fixe, chose que les nouvelles générations peut-être ont moins. Et les téléphones fixes, c'est source de fraudeurs et de fraudes. Et les aînés sont devenus plus vulnérables aux fraudes financières pendant la pandémie, parce que justement, en fait, pendant la pandémie, on a eu beaucoup plus d'appels qu'avant.
Et puis, on restait plus de temps à la maison, donc on avait aussi plus de temps. Et qui dit pandémie, dit aussi le fameux coco, le fameux Covid. Et on avait tous peur que quelqu'un de notre entourage tombe malade ou quoi que ce soit. Donc, il y avait cette angoisse qui pouvait faire planer au-dessus de nos têtes une éventuelle maladie, un éventuel accident. Et du coup, on est peut-être plus enclin à écouter l'histoire extraordinaire d'un gars qui nous appelle et qui nous dit « Voilà, je suis avec votre petit-fils, il a eu un accident XY.
» Exactement. Et beaucoup de personnes âgées, que ce soit à Toronto, au Canada ou dans le monde entier, se sentent un peu seules et beaucoup sont très heureux, en fait, d'avoir un appel. Ils sont ravis de recevoir un appel, un courriel ou un message texte de quelqu'un qui souhaite discuter de l'actualité ou de leur journée. même si c'est un inconnu. Donc en fait, justement, faites attention. Vous précipitez pas sur l'opportunité ou sur l'occasion. Prenez vraiment votre temps et demandez-vous, est-ce que vraiment cette personne me veut du bien, en fait, au final. Et des personnes de tous les âges peuvent être victimes de fraude, ce n'est pas que les personnes âgées. Donc vos aînés proches ne devraient pas être gênés.
C'est ça, et puis surtout, comme Anaïs le dit, souvent les personnes âgées peuvent être un peu seules, un petit peu moins entourées que d'autres personnes, d'autres générations peut-être un peu plus jeunes. Donc n'hésitez pas à parler de ce qui vous est arrivé à votre cercle, admettons à une tante, à un petit-fils, à une cousine. Voilà, dites-lui, j'ai reçu tel appel, qu'est-ce que t'en penses ? Juste parce que des fois, de dire à haute voix ce qui vient de se passer, on réalise que, en fait, ça sent l'arnaque. Et puis des fois, comme Anaïs l'a dit, on est tellement content, on reçoit un petit coup de fil, ça change un peu du quotidien, on coupe la télé 5 minutes, on papote avec quelqu'un. Même si on la connaît pas, on a toujours cette petite discussion avec le facteur au coin de la porte. Là, c'est un peu la même chose, sauf que on la connaît pas, cette personne. Ne sautez pas sur l'occasion pour raconter toute votre vie. Si cette personne, elle est vraiment votre amie, elle vous rappellera. Et si c'est pas votre amie, elle est en train de vous prendre pas mal d'informations. Donc, on y va mollo sur ce qu'on raconte à des gens qu'on connaît pas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire, Anaïs ? Quelles sont les étapes à suivre si on est victime de fraude ?
Alors, si vous êtes victime de fraude, vous devez rassembler tous les documents nécessaires, que ce soit les reçus, les courriels, les textos ou tout autre document lié à la fraude. Plus vous fournirez des renseignements, plus il sera simple d'enquêter sur la fraude en question et de la résoudre. Aidez vos proches à contacter leur institution financière. Le personnel des banques est au courant de telle arnaque et les employés ont reçu une formation leur permettant de remarquer toute transaction inhabituelle effectuée par un client. C'est-à-dire que moi, par exemple, au bout d'un moment, une fois, j'avais eu une transaction qui n'était pas normale. La banque m'a tout de suite appelée. Donc, normalement, ils sont supposés être au courant et ils suivent. Ils ont des alertes. Donc, ils devraient vous contacter. Presque toutes les banques ne vous demanderont jamais de valider ou de réactiver l'accès à votre compte au moyen d'un courriel non sollicité de votre part. Déposez un rapport, changez tous vos mots de passe. Donc après une fraude, c'est important de changer tous vos mots de passe parce que après, en fait, si vous avez vécu la fraude dans une plateforme, par exemple sur votre messagerie, après, si vous avez le même mot de passe ou un mot de passe très similaire sur votre téléphone, par exemple, ça peut recommencer en fait d'ici quelques temps. Donc changez vos mots de passe, changez vos comptes de banque, votre carte de crédit, vos médias sociaux, d'autres sites web où vos données personnelles sont stockées et prévenez votre famille et vos amis parce que parler de votre expérience c'est important, ça permet d'éduquer autour de vous également et vous seriez surpris du nombre de personnes à qui ça arrive parce que vraiment c'est très très commun, donc vraiment n'hésitez pas, il n'y a aucune gêne et aucune honte à avoir.
C'est bien de le rappeler, Anaïs, justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de fraude et qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte, parce qu'ils se disent « Oh là là, ça n'arrive qu'à moi ». Non, ça n'arrive pas qu'à vous. Il y a des centaines de milliers, de millions même de personnes au Canada qui sont victimes de fraude chaque année. Et justement, de rapporter ce qui s'est passé, de déposer des rapports, de ne pas hésiter à connecter avec le Centre antifraude aussi du Canada et même la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Ça vous permet d'une à vous de vous protéger et de faire comprendre à vos banques qu'il y a grand besoin de récupérer cet argent qui est parti dans une fraude. Et aussi, ça donne la possibilité à ces centres antifraude, à la GRC, de faire aussi des campagnes, d'en parler pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Donc des fois, votre témoignage, il peut aider d'autres victimes, donc n'hésitez pas.
Oui, et je voulais juste rajouter un élément. Une fois que vous avez vu qu'il y a eu une fraude, allez-y assez rapidement. N'attendez pas trop longtemps, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très occupés. Des fois, il y a des aînés qui ont vraiment plein d'activités, etc. Mais ne prolongez pas, faites-le directement. Allez reporter votre fraude. Comme ça, en fait, au plus vite, c'est réglé. Au plus vite, votre vie reprendra son cours et vous n'aurez plus de problèmes.
Et ce sera que un mauvais souvenir. En tout cas, merci Anaïs pour toutes ces bonnes pratiques et tous ces conseils. Et maintenant, vous allez écouter la suite de votre épisode de Nos aînés connectés. Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos aînés connectés, avec notamment le témoignage poignant de Vicky, une habitante du centre accueil Héritage ici à Toronto, ce centre pour aînés francophones situé au cœur du centre-ville. Et je vous rappelle d'ailleurs que ce nouvel épisode avait pour thème les arnaques aux sentiments, alors restez toujours bien prudents lorsque vous recevez des emails bizarres qui vous semblent être des appels de détresse provenant de la part d'une personne de votre entourage. Alors encore une fois, je répète, je sais bien, mais c'est important de souligner ces bonnes pratiques. Donc encore une fois, ne cliquez jamais, jamais, au grand jamais sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus et surtout, ne cédez jamais face aux pressions. Et s'il y a bien un conseil à retenir également, c'est de ne jamais hésiter à parler autour de vous de ce qui vous arrive, car des fois c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix et à quelqu'un de confiance que l'on réalise que l'on fait face, malheureusement, à une arnaque. Alors chers auditeurs de Choc FM 105.1, si cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeurs 2.0, je suis ravie. Et surtout si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. Nous serons toujours ravis de pouvoir mettre en lumière votre histoire et surtout de prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous, dorénavant. Alors merci à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Nos aînés connectés. Je vous rappelle au passage que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Tous nos épisodes sont d'ailleurs diffusés les mardis à partir de 18h, mais sachez que vous pouvez également retrouver tous ces épisodes de la série Nos aînés connectés sur notre site chocfm.ca ainsi que sur les plateformes de streaming. Et oui, grande nouveauté, toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast ou encore TuneIn, Heart Radio, les épisodes de toutes les émissions de Choc FM y sont maintenant disponibles. Alors encore un grand merci à toutes et à tous. C'était Nathalie Salmeron. Bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de Choc FM 105.1, votre radio francophone préférée ici à Toronto.
Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.